Le titre du message, c'est « De la liberté à l'esclavage », puis c'est une introduction au livre qu'on va faire, le livre de l'Exode. OK, moi j'aime ça faire ça comme dans les films, hein? Je n'ai pas étudié en littérature pour rien. Donc, souvent dans les films, il y a plein de films qui commencent par la fin, puis après ça on découvre pourquoi qu'on en est arrivé là. Mais c'est un petit peu ce qu'on va faire ce matin, on va faire un retour en arrière parce que moi j'aime ça aller au fond des choses. Fait que oui, on arrive dans Exode. Le peuple de Dieu est au seuil de l'esclavage chez les Égyptiens. Mais moi, je veux savoir comment ils se sont rendus là. Fait qu'êtes-vous prêtes? Ce matin, on va voir un petit peu plus que 2000 ans d'histoire. Fait qu'il faut faire ça à vitesse grand G. Hein? J'ai 29 diapositives. Fait que si je passe plus que 2 minutes une diapositive, vous allez être ici plus qu'un heure. Fait que c'est pas bon. Hein? Ça fait qu'on va commencer... On va commencer par le livre de Genèse, parce que c'est le commencement de tout. Oui? Fait que dans Genèse, Dieu dit, « Bang, c'est arrivé! La lumière est arrivée! La lumière est arrivée dans le monde! » Dieu a décidé de créer le monde. Vous rappelez-vous, il y a 7 jours, vous rappelez-vous ce qui est arrivé chacune des journées? Hein? Ben, c'est mes images d'école du dimanche, hein? Il n'y a rien de parfait en ce moment. OK, y a-t-il quelqu'un qui se rappelle ce qui est arrivé la première journée? Je vous l'ai dit, là. Lumière. La deuxième journée. Ah, c'est plus compliqué déjà, hein? Il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. La troisième journée. Les eaux d'en bas, il a séparé ce qui était sec de ce qui était mouillé. Fait qu'il y a eu la terre, puis il y a eu les eaux. Fait que voyez-vous que la dérive des continents, ça a bien du bon sens, parce que Dieu, il a fait juste un gros tas de terre, puis le reste, c'était de l'eau, puis après ça, ça s'est séparé. La troisième journée. La quatrième, on est rendu. Quatrième. Oui, les as pour marquer le temps. Cinquième journée. Il y a eu les oiseaux, les poissons, les reptiles. La sixième journée. Non, la végétation, c'est arrivé quand il a séparé le sec du mouillé. La végétation est arrivée là. Les animaux. Puis nous autres, on fait partie, on n'est pas des animaux, là, mais nous autres, on a été créés la même journée que les animaux. Oui? Fait qu'on peut dire que dans la Genèse, il y a eu le monde, on arrive au premier Rome. Oui? Regardez la prochaine. Pensez-vous que tout ça, c'est arrivé par hasard? Hein? Moi, quand par hasard, je fais quelque chose, ça donne une grosse tâche. Mais quand je le planifie, c'est pas pareil. Fait que là, on en arrive au premier couple. Ceux qui ont déjà pris des cours mariés pour la vie vont reconnaître mes petits dadas. OK, le premier carreau, vous voyez un carreau vert, oui? On est tous à la même place. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image puis à notre ressemblance. Dans ma tête, à moi, c'est un gros carré vert. Ça, c'est l'image de Dieu. Puis quand Dieu a fait dormir Adam, il les a séparés. Puis regardez, il a fait 2 carrés avec un. Il en a fait un jaune puis un bleu. Puis si on met jaune puis bleu ensemble, ça fait vert. OK? Puis pourquoi Dieu nous a séparés? Parce qu'il a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a fait ça par pure bonté. Fait que, madame, si vous avez un conjoint, il a fait ça par pure bonté pour vous autres. Puis, monsieur, si vous avez une conjointe, bénissez Dieu, il a fait ça par pure bonté pour vous autres. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Fait que c'est pour ça qu'il nous a fait. Si on regarde nos 2 carrés, mettons que je me mets des lunettes jaunes parce que je suis une fille. Bien, moi, je vais voir la vie en jaune. Mais si Luc a des lunettes bleues, il va voir la vie en bleu. Fait que quand on va voir les choses, on les verra pas de la même façon. On a tous les deux raisons, mais on voit pas ça de la même façon. Dieu nous a fait différents, mais complémentaires. Parce que si moi j'explique comment je vois ça en jaune, puis lui m'explique comment il voit ça en bleu, ben finalement on va voir ça en vert, hein? Puis là on va voir ça comme Dieu le voit. Puis moi je peux vous dire que dans le couple, faut s'aider à voir en vert, faut s'aider à voir comme Dieu. Puis quand dans notre couple, la Bible est arrivée, ça nous a aidés à voir ça comme Dieu. Parce que je me rappelle d'une situation dans notre vie où quelqu'un nous a demandé qu'on l'endosse. Moi, j'avais pas le goût, puis Luc avait le goût. Fait qu'il y avait une espèce d'opposition. Mais on a décidé de regarder à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de l'endossement? Fait que finalement, ce qui est important dans notre couple, c'était pas ce que Lise pense ou ce que Luc pense. C'est important ce que Dieu pense. Puis quand on agit en fonction de ce que Dieu pense, puis qu'on s'aide un l'autre à voir ce que Dieu pense, ben ça va bien. Parce qu'on fait ça selon le plan de Dieu. Fait qu'il faut se rappeler, on n'est pas pareil, on est complémentaires, puis c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Et on arrive au septième jour. OK? Dieu dit, il a vu que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Hein? Pas juste bon, très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, où il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. On dirait qu'il se répète un peu dans la Bible, vous ne trouvez pas? OK. Tout ce qu'il avait fait était très bon, puis c'était le septième jour. Le septième jour de la semaine, peu importe que ce soit le lundi ou le dimanche ou le samedi, mais le septième jour, c'est un jour où on s'arrête pour voir ce que Dieu a fait était très bon. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. On s'est arrêté, puis c'est ça que ça devrait être toutes les semaines à l'Église. On s'arrête pour célébrer ce que Dieu a fait de très bon. Êtes-vous d'accord? C'est ça, hein? Puis là, jusque-là, hein, c'est très beau. Trouvez-vous que Dieu il a bien fait ça? Si c'était resté comme ça, on pourrait dire, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants, puis l'histoire finit là. Oui? Mais, tadam! Le serpent est arrivé. OK. Le serpent, c'était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, « Vous ne mangerez d'aucun fruit des arbres du jardin? » Ève répond, « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point de peur, vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. » Le serpent réplique, « Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous autres, que Ève, là, a été même pas surpris que le serpent parle. Ça devait être commun. Les animaux devaient parler au paradis terrestre parce qu'elle n'était pas surprise, mais pas pantoute. Elle n'a pas dit « Hey, Adam, le serpent parle », ça devait être normal. En tout cas, moi, c'est ce que j'en pense. Le serpent, il a répondu « Vous mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Moi, Ève, elle vient de recevoir un message de la part du serpent. Adam n'a pas dit un mot, il a écouté. La femme a décidé, « Oh, ça a l'air pas pire, ce fruit-là, ça a l'air bon, puis ça doit être spécial, hein, comme Dieu. Hey, ça doit être super, hein? Tu dis, fais ci, fais ça, puis ça arrive, hein, c'est ça qui est arrivé avant. » Fait qu'elle dit, « Je vais en manger, puis je vais en donner à mon mari. » C'est arrivé, comme elle l'avait dit. Hein? Elle en a mangé, puis elle en a donné à son mari. Son mari... Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit « Wow, wow, Ève, non, fais pas ça, Dieu a dit d'autres choses. » Il n'a rien dit. Les deux ont choisi la vision du serpent plutôt que la vision de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Puis dans la Bible, ça nous dit que c'était le premier péché. Je me rappelle, j'avais déjà fait un enseignement sur le péché, c'était manquer le but, puis le but, c'était d'être une bénédiction. Bien, cette fois-ci, quand j'ai préparé ma prêche, j'étais un petit peu plus loin. C'est vrai que le but, c'est toujours être une bénédiction, mais je pense qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Que le péché, c'est de ne pas suivre Dieu. Quand je décide qu'on le fait à ma façon ou à ta façon, mais pas à la façon de Dieu. Je pense que c'est ça le premier péché. Puis c'est ça qui est arrivé. Hein? Au lieu de s'entraider pour se rapprocher de Dieu, ben, ils sont regardés l'un l'autre puis ils ont fait confiance au serpent. Fait que les conséquences du premier péché. Un... Le serpent a perdu ses pattes. Avez-vous remarqué? On va être un peu plus sérieux. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé au premier péché? Les humains ont douté de Dieu. Ils ont arrêté d'y faire confiance. La foi, c'est faire confiance. Chaque fois qu'on manque de foi, qu'on ne fait pas confiance à Dieu, je peux dire que le péché est dans notre vie. Fait que on est tous pécheurs, n'est-ce pas? Bienvenue dans le club. Le lien de confiance, quand on le rompt avec Dieu, on a des problèmes. Au moment du premier péché, oui, il y a eu une séparation, il y a une vraie séparation, il y a une séparation physique. Dieu a chassé Adam et Ève du paradis terrestre, puis il y a eu une séparation spirituelle. Adam et Ève, comme ils doutaient de Dieu, ils n'étaient plus en communion avec Dieu. Si je me mettais à douter de Luc, j'aurais bien de la misère à être en communion avec mon mari, si j'y faisais pas confiance. Puis je pense que c'est ça dans notre vie. Quand on arrête de faire confiance à Dieu, que c'est difficile d'être en communion avec lui. Puis je pense que, comme couple, il faut s'encourager à y faire confiance. Puis comme église, il faut s'encourager à faire confiance à Dieu. OK? OK. Fait que là, on a vu le premier homme, le premier couple, le premier péché. On va voir les premiers enfants que la Bible nous parle. Peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, mais les premiers dont la Bible nous parle. Hein? Caïn puis Abel. Qu'est-ce qu'il leur dit, Dieu? L'Éternel Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? » Le savez-vous pourquoi? Vous en rappelez-vous de l'histoire? Caïn puis Abel, Caïn a offert un sacrifice à Dieu, il a offert des légumes, parce qu'il était jardinier. Puis Abel, lui, il a offert un premier-né de son troupeau. Puis là, Caïn a regardé Dieu, puis il trouvait que Abel avait l'air son chouchou. Qu'il avait de l'air à faire un plus gros sourire quand il a vu le sacrifice d'Abel que quand il a vu le sien. Puis Dieu, il dit à Abel, il dit, « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Hein? » Il y a une graine de jalousie. Dieu, il dit à Caïn, « Lève ta tête. » Mais quand on lève notre tête, celui qu'on voit, c'est Dieu. Puis il dit, « Si le péché couche à ta porte, le péché va se tourner vers toi. » Mais quand je dis vers toi, quand je suis rendu à moi, c'est moi, hein? Ouais? Bien, si mon point de départ pour évaluer tout ce qui se passe autour de moi, c'est moi, bien, Dieu, il peut en premier, je le regrette. C'est moi le premier. Ouais? Le plus important, c'est moi. Donc, moi, Abel, il me tape ses nerfs en tabarouette parce qu'il est le chouchou de Dieu. On se débarrasse du chouchou, puis la vie va être belle. C'est ça que Caïn a fait. Ça me fait mal que Dieu préfère un autre. Je m'en débarrasse, puis je vais revenir au point de départ, puis je vais être le préféré, je vais être seul, tu sais. C'était le raisonnement de Caïn. Caïn, il n'a pas relevé la tête. Il a regardé à lui et à sa blessure. Dieu nous appelle à relever la tête puis à voir ce que lui pense de nous autres. Si Caïn avait relevé la tête puis qu'il avait dit, « Dieu, pourquoi t'as préféré ce qu'Abel a fait plutôt que ce que j'ai fait? » Bien, peut-être qu'il y aurait eu une réponse puis il se serait amélioré, qu'il aurait connu une partie de son cœur. Il n'aurait pas été... Dieu ne l'a pas jugé. Dieu lui a demandé à Caïn, « Relève la tête. Laisse pas la jalousie prendre racine. C'est toi là, qui deviens esclave de ta jalousie. » Hein? Dieu nous appelle à relever la tête. Puis ça a continué. Quand toute une société remplie de gens égoïstes font ce qu'ils pensent qui est bon pour eux en partant d'eux autres, regardez ce que ça donne. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Il était vraiment attristé, Dieu. Hein? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y en a un qui a trouvé grâce à ses yeux. Après le premier péché, il y a le premier sauvetage. Ouais? Heureusement qu'il y a eu Noé. Il y a un nouveau départ. Avec qui? Avec Noé. Pourquoi? Hein, si on regarde le verset, voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans cette génération, un homme qui marchait avec Dieu. Pourquoi il y a eu une deuxième chance? Parce que Noé marchait avec Dieu. Hein, il était dans le plan de Dieu, Noé. Il marchait avec lui. Est-ce que ça veut dire que Noé était parfait? Non. Mais il marchait avec. Puis c'est ça que Dieu attend de nous autres, qu'on marche avec Noé. Puis qui est-ce qui a été sauvé? Y a-t-il juste Noé? Noé et sa famille. Hein? S'il l'a fait pour Noé, il peut le faire pour toi qui marches avec Dieu. Hein? Ça nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, mais une foi active. J'y crois, puis j'agis. Parce que juste croire, c'est pas assez. Ça dit que les démons croient, puis ils tremblent, mais ils sont pas sauvés. Ça prend une foi active. Il faut croire en lui au point de le faire. Mais si tu crois en lui au point de lui obéir puis de marcher dans ses voies, inquiète-toi pas. Toi puis ta famille, vous allez être sauvés. On a un nouveau départ avec Noé. Ça dit, Dieu a béni Noé et ses fils, il leur a dit, reproduisez-vous, devenez nombreux puis remplissez la terre. Ça, c'est ce que Dieu a demandé. Voici ce que les hommes ont fait. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. On voit que les hommes, ils n'ont pas suivi Dieu, ils ont fait à leur tête. Hein? Dieu a dit, remplissez la terre. Bien, moi, si je veux qu'on remplisse la salle ici, il va falloir qu'on se disperse. Les hommes disent, non, nous autres, on ne se dispersera pas. On va se faire mettre un petit mouton. On va faire une grosse tour. On va toucher le ciel, puis tout le monde va dire, ah, voilà. Hein? Tout le monde va les reconnaître. Faisons-nous un nom, l'orgueil. Là, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir une parenthèse parce qu'on l'a trop à cœur, ça fait partie de l'ADN de l'Église. Ça fait, on en a parlé, moi puis Luc, pendant « Ouh! » Ceux qui sont avec nous autres vont dire « Ouh! » Des années et des années. Les hommes bâtissent, comme ça s'est fait à Babel, avec de la brique. Hein? Ils ont dit « Faisons-nous des briques! » Savez-vous c'est quoi une brique? C'est faire tout du monde pareil. Une brique ou un autre brique, tu peux la mettre n'importe où, tu peux les interchanger, il n'y a pas de problème. Dieu lui dit, si tu élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Dieu est bâti avec des pierres vivantes. Avez-vous déjà vu des pierres dans la nature? Il n'y en a pas deux de pareilles. Puis je sais qu'il y en a qui ont des petits pointus qui sont un petit peu fatigants, là. Mais si tu rentres dans le creux d'un autre, bien, ça ne le fatiguera pas. Ouais? Parce qu'il y a de la place pour s'accommoder. Puis c'est Dieu qui bâtit l'Église. Hein? C'est lui qui dit, j'ajouterai à l'Église ceux qui se seront convertis. Ce n'est pas nous autres qui choisissons qui est-ce qui rentre dans l'Église. C'est Dieu qui choisit. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, nous les pierres vivantes? On sait que chacun, Dieu nous a fait unique et différent. Ce que Dieu me demande, c'est de respecter celui qui est différent de moi. Ça, c'est la première étape. Un, bon, il m'achale un peu, là, mais il est différent. La deuxième étape, une fois que j'ai pu le respecter, parce que si je ne le respecte pas, je ne peux pas me rendre à la deuxième étape. La deuxième étape, quand Dieu m'a travaillé un peu puis qu'il m'a sablé un peu, là, il va m'amener à apprécier l'autre. J'ai besoin de toi parce que tu n'es pas comme moi. De la même façon qu'il a fait Adam et Ève, j'ai besoin de mon homme parce qu'il n'est pas comme moi. Puis l'homme a besoin de la femme parce qu'il n'est pas comme... La femme n'est pas comme lui. On a besoin de voir les choses de différentes façons puis d'en arriver à un consensus de voir ça comme Dieu. Puis c'est ça la folie de Dieu, puis c'est ça sa gloire. C'est de prendre tout du monde différent puis de faire quelque chose qui marche. Dieu, il dit « à moi le jugement ». Fait que dans l'Église, pas de jugement, pas de critique. Ça ne nous appartient pas. C'est facile critiquer, c'est facile juger. Dieu nous amène à une place plus haute. Apprécier, respecter, puis louanger les différences. C'est comme ça qu'il bâtit. Qu'on soit tous tournés vers Dieu, puis tous transformés. OK. Fait que regardez qu'est-ce que Babel a essayé de bâtir. Là. C'est une... Hop. OK. Ça s'appelle une ziggoura. Je vous le dis parce que c'est bien utile d'un mot croisé. Hein? Fait que quand on ne marche pas comme Dieu veut qu'on marche, qu'est-ce qui arrive? Confusion, Babel. La première grande confusion sur la planète, ça a été Babel. Bla, 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 bla. Tout le monde se parle, personne ne se comprend. Ils n'ont plus le même langage. Fait que Dieu a dit, OK, bon, l'humanité ne veut pas me suivre, mais peut-être que je peux me bâtir un peuple, me choisir un peuple. Il a choisi Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Qu'est-ce que vous pensez que c'est le rêve de Dieu pour son peuple? Dieu rêvait d'une alliance, de dire, « On va marcher main dans la main. » Hein? Je vais être leur Dieu, ils vont être mon peuple. » Qu'est-ce qui arrive au peuple qui marche dans les voies de Dieu? Il est béni. Il est béni. Pourquoi Dieu le bénit? Pour qu'il soit une source de bénédiction. Une fois que le peuple de Dieu est une source de bénédiction, qu'est-ce qui se passe? Les gens voient l'amour de Dieu. Voient qu'on a un Dieu bon. Qu'on n'a pas un Dieu qui demande des martyrs, on n'a pas un Dieu qui demande de tuer du monde, mais qu'on a un Dieu qui est bon. Tous verront que je suis bon. Puis c'est à ça qu'est appelé le peuple de Dieu, que tous voient ce qui est bon. Abraham, il a décidé d'obéir à Dieu. Est-ce qu'Abraham était parfait? Désolé de péter votre balloune, il ne l'était pas. Hein? Abraham, Dieu a fait une promesse à Abraham. Il dit, ta postérité va être bénie. Facile à dire, hein? Il n'y avait pas d'enfant. Moi, si j'ai pas d'enfant, là, c'est sûr que tout le monde va être béni. Là, regarde, j'ai pas grand-chose. Fait que Abraham, il est allé voir sa femme, puis ils ont ri un peu. Hein? Il n'y avait pas d'enfant. Fait qu'ils ont essayé, les temps passés. Ils ont essayé, mon Dieu, regarde, moi, on était supposé avoir des enfants, puis on n'en a pas. Fait que Sarah a dit, j'ai une idée. Garde, si ma servante accouche sur mes genoux, ça va être notre enfant, puis garde, on va avoir une descendance. Puis c'est arrivé comme ça. Il y a Ismaël, le premier-né, qui est arrivé, le fils de la servante égyptienne. Mais c'était pas le plan de Dieu. Est-ce que Dieu a délaissé Abraham pour autant? Non. Puis c'était pas un deuxième plan. Dieu a pas arrêté d'être avec Abraham. Puis finalement, l'enfant de la promesse est arrivé. Fait qu'imaginez-vous cet enfant-là. Je ne sais pas si Dieu vous a déjà fait des promesses, mais quand la promesse arrive, X est précieux. Hein? Bien, imaginez-vous qu'un bon matin ou un bon soir, je ne le sais pas, je n'étais pas là. Mais Dieu a dit à Abraham, je veux que tu sacrifies Isaac. Hein? C'était ce que Abraham avait de plus précieux, c'était Isaac, c'était l'enfant de la promesse. Qu'est-ce qui est arrivé? De bon matin, Abraham est parti avec Isaac, ses serviteurs, du bois pour le sacrifice. Ils ont marché pour s'en aller jusqu'à l'endroit où l'Éternel avait désigné. Puis il a dit aux serviteurs, restez là. Puis Abraham a répondu, nous reviendrons. Ouais. Nous reviendrons. Ça veut dire qu'Abraham, je vais me mêler, Abraham ne reviendra pas tout seul. C'est nous. Je suis un prof de français. Là, s'il était revenu tout seul, il y aurait du je. Mais là, c'est nous. Reviendront. Fait qu'il monte sa montagne. Isaac, qui n'était pas trop fou, il dit, « Ben, père, là, regarde, il est où le sacrifice? » Il dit, « Inquiète-toi pas, Dieu pourvoira. » Voyez-vous la foi d'Abraham? Dieu pourvoira. Ça va plus loin. Abraham met le bois, il attache son gars pour le consumer le sacrifice. Il lève le couteau, puis Dieu y arrête la main. Il dit, « Je vois que tu n'as pas eu peur. » De m'obéir, que moi, j'ai été plus important que la promesse. On est descendant par la foi de cet Abraham-là. Pas de n'importe quel, de celui-là. Fait qu'Abraham, il est redescendu avec Isaac, il a eu la vie sauve. Isaac, quand sa mère est morte, était triste. Dieu a pourvu une femme pour Isaac. Elle s'appelait Rebecca. La femme a été choisie selon les desseins de Dieu. Ensuite, elle était stérile. Isaac a prié pour Rebecca. Rebecca est devenue enceinte. Rebecca a eu une grossesse mouvementée, ça brassait. Elle a consulté Dieu pour savoir ce qui se passait dans son ventre. Elle dit, c'est quoi qui se passe là? Elle dit, de ton sein va sortir deux nations. Voyez-vous, quand ils étaient proches de Dieu, ils consultaient Dieu, Dieu faisait partie de leur réalité. Ils ont eu des jumeaux, Ésau et puis Jacob. Comme Dieu l'avait dit, le plus petit a dominé sur le plus vieux. Même si ce n'est pas dans l'ordre établi, Dieu est maître de ce qui se passe. Quand Dieu décide que le plus petit va régner sur le plus grand, tu dis, oui Seigneur, qu'il en soit ainsi, c'est ça qui est le mieux. Puis c'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé à notre Jacob? C'est sûr que le plus vieux, quand il s'est aperçu qu'il avait perdu son droit d'aînesse parce que Isaac avait béni Jacob plutôt que de bénir Ésau, Ésau a repris le même pattern que Caïn, il dit, « Ih, pauvre de moi, je ne suis pas le chouchou. Mon frère était le chouchou, débarrassons-nous du chouchou. » Mais la mère a dit au chouchou, « Sauve-toi, sauve ta peau. » Fait que notre Jacob est parti. Fait qu'il est arrivé chez Laban, son oncle. Là, il a vu Rachel. Oh, elle était belle, Rachel. Il a demandé à Laban, « J'aimerais ça, la banque, là, me marier avec Rachel. Ben, tu travailles pour moi pendant 7 ans, puis tu vas voir Rachel. Fait que notre gars, il a travaillé fort pendant 7 ans. Puis la journée des noces, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas là. Mais finalement, c'est Léa qui s'est retrouvée dans la tente, puis est devenue son épouse, c'était la plus vieille. Bon, belle affaire. Fait que là, le lendemain matin, il devait être un peu poqué, notre Jacob, il s'est levé, puis il est allé voir la banque, puis il dit, regarde, c'est quoi qui s'est passé? Ben, tu travailles encore pour moi un autre 7 ans, puis là, ben, tu vas voir Rachel. Fait que là, il est devenu le mari de Léa, il a travaillé pendant 7 ans, puis il est devenu le mari de Rachel. Fait que là, regardez qu'est-ce que ça donne au bout du compte. Hein, quand il arrive bien du monde dans la maison, notre Jacob, il a 2 femmes. Il y a Léa, puis il y a Rachel. Puis chaque femme a des servantes. Hein, Bilba, puis Zilpa. C'est pas Zilpa, là, c'est Zilpa. Ça fait que notre Jacob a eu 13 enfants, 12 garçons, avec 4 conjointes. Fait que pensez-vous que des familles reconstituées puis dysfonctionnelles, ça surprend Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Il y en a vu d'autres. Hein? Est-ce que ça l'empêchait de se servir d'eux autres pour donner naissance au peuple de Dieu? Pas du tout. Puis pourquoi Dieu, c'est pas son plan originel, hein, d'avoir une famille comme ça? Ça veut pas dire qu'il les aime pas, mais pourquoi c'est pas son plan originel? Parce qu'imaginez-vous, là, si vous lisez toute cette section-là, on le fera pas ce matin, parce que vous allez m'en vouloir, on sortira pas de ça avant 4 heures. Mais si on regarde tout ça dans le détail, il y a de la jalousie entre les conjointes, il y a de la jalousie entre les enfants. Imaginez-vous si c'est compliqué, un homme et une femme avec les enfants, comment est-ce que c'est avec 4 femmes puis 13 enfants? Dieu veut pas ça pour nous autres, il nous aime trop. Hein? OK, on va prendre l'histoire de l'avant-dernier de la famille de Jacob, Joseph. Ouais, tout le monde me suit. On est rendu à Joseph. Joseph, c'était le chouchou de Jacob. Bon, on sait bien, c'était le petit gars de Rachel, celle qui aimait puis qui trouvait belle. Hein? Il a fait une belle petite, un beau petit costume, pas comme les autres, il l'a chouchouté, notre Joseph. Les autres ont fait comme quand... Jacob aime plus Joseph que nous autres. On est blessés, pauvres de petits nous autres. C'est pas juste, la vie est pas juste. Débarrassons-nous de Joseph. Ils l'ont mis dans une citerne, puis tout à coup, ils sont revenus. Non, non, on va faire de l'argent en plus, là. Une citerne, c'est pas payant. Ils l'ont vendu pour être esclave, puis ils ont dit à Jacob, « Oh, mon papa, on est triste. Oh, Joseph est mort. » Ils ont fait croire au père que Joseph était mort, puis ils l'ont vendu comme esclave. Voilà notre Joseph. Oui? Joseph a été vendu comme esclave. Ça nous dit ici. Dans la maison de Potiphar, là, quand il était esclave, Joseph, là, il aurait pu dire, « Pauvre de petit moi, je suis une victime, la vie est triste. » Mais ce n'est pas le choix que Joseph a fait. Joseph a choisi de se relever la tête puis de marcher avec Dieu. L'histoire de Potiphar, vous voulez savoir c'est quoi l'histoire de Potiphar? Il ne me reste pas grand temps, là, l'histoire de Potiphar. Imaginez-vous le beau Joseph, le fils de la belle Rachel, il est dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar le trouve de son goût. Potiphar, c'est quelqu'un en Égypte. C'est... Joseph, c'est son esclave, là. Hein? Il aurait pu s'appeler Gédéon. Potiphar, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui arrive. La femme du maître décide qu'elle trouve le gars de son goût, l'esclave de son goût. Elle dit, « Viens coucher avec moi. » Joseph, il dit non. Puis regardez ce qu'il dit. Il dit, « La femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans sa maison. » Non, là, je suis mêlée. Hein? « Mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. » Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais, pas contre Potiphar, contre Dieu? Hein? C'est tout un gars, Joseph. Joseph a décidé de marcher avec Dieu. Fait que là, Joseph a été mis injustement en prison parce que Potiphar a cru sa femme. Sa femme l'a accusé qu'il voulait, hein, qu'il voulait le violer, fait qu'ils l'ont mis en prison. En prison, Joseph aurait dû dire, Oh, pauvre te petit moi, la vie est injuste. Oh, Dieu m'a abandonné. Pourquoi m'arrive-t-il tout cela? Hein? Joseph aurait pu dire ça. Comme bien du monde se disent quand il arrive des affaires. Joseph en a décidé autrement. Il a décidé de faire confiance à Dieu. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Dieu lui a donné grâce, même en prison, à notre Joseph. Puis Joseph a été témoin. Il était tourné vers les autres, Joseph. Fait qu'il en a vu deux serviteurs du Pharaon qui étaient mal pris. Mais c'est parce qu'il était sensible qu'il a vu qu'ils étaient mal pris. Puis il est allé les voir. Il a dit, qu'est-ce qui vous attriste? Ben, on s'est fait jeter en prison, là, puis on a eu des rêves, là, puis on voudrait que tu nous interprètes ces rêves-là. Joseph a interprété les rêves, puis c'est arrivé comme l'interprétation qu'il a fait. Joseph, la seule chose qu'il a demandé à ces gars-là, quand vous serez retournés proche du Pharaon, intercédez en ma faveur. Mais il est resté moult années en prison encore. Puis il aurait pu dire, ah, oh, pauvre de petit moi, Dieu m'a abandonné. Non, il a décidé de choisir. Il a choisi de suivre Dieu. Et à un moment donné, Pharaon a fait des rêves. D'un coup, bing! Un des gars qui était en prison s'en est rappelé. Ah, il dit, ouais, il est en prison. Il y en avait un qui interprétait les rêves. Ils ont été chercher notre Joseph, puis interpréter les rêves du Pharaon. Puis il est tombé pile dessus. Parce que Dieu y avait dit, parce que notre Joseph marchait avec Dieu. Il est devenu le bras droit du Pharaon. Hein? Puis les rêves, c'était qu'il y aurait des années d'abondance, puis qu'il y aurait des années de disette. Fait que pendant les années d'abondance, Joseph a dit, « Faites des réserves pour que quand arrive la disette, que vous ne soyez pas mal pris. » Fait que c'est lui qui a été établi pour faire tout ça. Le temps passe. Quand arrive la famine, la famille de Joseph réapparaît. Joseph aurait pu décider, « Ha, ha, le jour de la vengeance, c'est arrivé. Je fais ça à ma façon. Ils m'ont fait du mal. Pourquoi ne pas se venger? » Joseph a décidé de faire ça à la façon de Dieu. Ils m'ont fait du mal, je leur pardonne. Il a pardonné à sa famille. Joseph, quand on obéit à Dieu, il est devenu une bénédiction pour sa famille. Puis regardez le commentaire de Joseph. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Hein? Notre Joseph, il est entré dans le plan de Dieu. Il a été une bénédiction. La semaine prochaine, vous allez voir, vous allez entrer dans Exode. Hein? C'est pas si pire, on a fait un livre en 45 minutes. Hein? Pas pire. Je veux juste finir avec ça. Dans Exode, on retrouve le peuple de Dieu qui sont passés de 70 à 2 millions, puis qui sont rendus des esclaves. Mais saviez-vous que ce n'est pas la première fois qu'on en parle? Dieu l'avait dit à Abraham, dans Genèse. Dans Genèse 15, 12, Dieu avait dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. » Je veux juste attirer votre attention sur quelque chose, puis je vais finir avec ça. Que Dieu ait dit ça à Abraham, c'est-tu parce que Dieu désirait ça? Moi, je me rappelle d'un vieux pasteur quand j'étais au Mexique qui m'a fait comprendre cette histoire-là. Je ne sais pas si, quand vous étiez jeune, vous avez déjà vu la regarder la parade du Père Noël, mais il y en a un qui est en hélicoptère, là, puis qui voit le début de la parade, puis il voit la fin de la parade. Puis il est capable de vous dire, « Ah, tel char s'en vient! » Mais il ne sait pas parce qu'il a décidé que ce char-là était pour être là, mais parce qu'il voit. Il n'a pas la même vision que moi à télévision. Il sait ce qui va arriver. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu voit ce qui va arriver. Puis je veux vous encourager, parce que si Dieu voit ce qui va arriver, quand Dieu dit quelque chose, c'est que c'est vrai, c'est la vérité. Quand Dieu dit qu'il revient pour une église glorieuse, c'est la réalité. Et je veux vous encourager à marcher dans les voies de Dieu. Parce que c'est là la vraie liberté. Puis si on veut passer d'esclave à libre, si on regarde dans tout Genèse, hein, ça s'est tout reproduit d'une fois à l'autre. Marcher avec Dieu, choisir de marcher avec lui, pas par obligation, le choisir, c'est choisir d'être libre. Puis soyez libre, puis soyez confiant, parce que l'Église de Dieu est belle. Il nous l'a dit, puis il revient pour une église glorieuse, puis une église qui marche avec Dieu, Elle est bénie, puis elle est une source de bénédiction pour les autres. Fait que soyez en paix, puis soyez une bénédiction pour les autres. Amen.
Amen. Je savais que j'avais bien fait de l'inviter. Elle coûte plus cher que les autres, mais elle vaut la peine. Amen. Donc, j'avais invité Lise parce que moi, j'aurais jamais réussi à passer à travers tout 2000 ans, 4000 ans d'histoire en si peu de temps. J'étais misère à passer à travers un chapitre, une prêche. Merci, Lise. C'est bon. On rentre dans cette série-là, Sortir d'Égypte. Vous savez, Christ nous a ouvert le chemin pour la liberté. Ça a été gagné à la croix. Le chemin est ouvert à la liberté. Et tout le monde, la chose principale qu'elle nous a apportée, c'est marcher avec Dieu et c'est regarder en haut, au lieu de regarder nos problèmes à nous. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas le Christ, ils savent pas où regarder. Puis même s'ils regardent vers le ciel, vu qu'ils n'ont pas Christ, ils regardent pas vraiment vers Dieu, ils regardent... C'est comme quand tu as les yeux qui ne focusent pas, là. Ils savent pas trop où regarder. C'est Jésus qui amène le focus, vraiment sur où ce qu'il faut regarder. On a reçu cela, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ceux qui l'ont pas reçu. Si on ouvre notre cœur à Jésus-Christ, il nous focus tout de suite. Par contre, on marche pas libre comme on devrait. Donc, on sait où regarder, mais on a plein d'obstacles à notre liberté. Le livre d'Exode, moi et Laurent, on a eu vraiment à cœur d'utiliser ce livre-là, parce que c'est le livre de la sortie vers la liberté, parce que c'est ça que Dieu a offert à son peuple. À travers cette histoire-là du livre d'Exode, lorsqu'il a fait sortir son pays de l'esclavage vers la liberté, sortir d'Égypte. Et j'avais à cœur de demander à Lise ce que nous amène dans le livre d'Exode avec l'histoire du monde pour pouvoir vraiment comprendre et s'identifier chacun de nous autres avec ce que le peuple d'Israël a vécu en Égypte. Et c'est ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines jusqu'à Pâques. On va avancer dans le livre d'Exode, on va essayer de comprendre pour nous-mêmes aujourd'hui en 2016, qu'est-ce que ça veut dire pour nous emmener, nous, comprendre les esclavages dans lesquels on n'est pas encore libre et comprendre comment s'en sortir et arriver vraiment à la liberté. Alors, c'est ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines. Merci, Lise. Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur Dieu, parce que oui, comme Lise disait, dès le départ, tu as pourvu, Seigneur, une manière de s'en sortir. Seigneur Dieu, Adam et Ève sont devenus esclaves aussitôt qui ont brisé ce lien avec toi, ce lien de confiance-là. Esclaves d'eux-mêmes, esclaves l'un de l'autre, esclaves de toutes les influences négatives, ténébreuses qui sont autour de nous. Mais Seigneur Dieu, ton cœur, c'est de voir ces enfants libres. Et Seigneur, t'as pourvu à la croix, malgré la souffrance, malgré tout ce que ça t'a coûté, t'as pourvu à la croix notre liberté, Seigneur. Ma prière, Seigneur Jésus, c'est que tu peux nous emmener dans cette belle aventure vers la liberté, de nous permettre de pouvoir aller plus loin, Seigneur, dans la liberté que tu nous as déjà offert. Nous emmener plus loin dans la compréhension, Seigneur, de ce qui nous tient encore captifs et comment s'en libérer. Alors, Seigneur, merci de tout cœur. Merci de tout cœur, Seigneur Dieu, pour ton amour pour nous. Merci pour le message de Lise ce matin. Merci pour l'Église, Seigneur, ton plan parfait de l'Église. Tu nous veux ensemble pour bâtir ensemble. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen.